Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. C'est le symbole du retour du religieux dans la vie civile. En Turquie, le président Erdogan veut autoriser les mouftis et non plus seulement les officiers d'état civil à célébrer des mariages, ce qui suscite les craintes des féministes et des défenseurs de la laïcité à Istanbul, Anne Andlauer.
En Turquie, jusqu'ici, les choses étaient claires. Le mariage civil, le seul reconnu par l'État, était célébré par un maire ou autre officier d'état civil. Le mariage religieux, facultatif, dans cette république encore officiellement laïque, est à la charge des imams. Il reste assez courant et se célèbre en général avant l'union civile, mais il n'a aucune valeur juridique. Ce que le parti au pouvoir propose, c'est d'autoriser des mouftis à célébrer des mariages civils. Les mouftis turcs sont diplômés des facultés de théologie et employés par la présidence des affaires religieuses, la Diyanet. Cette Diyanet, créée par Atatürk, le premier président et fondateur de la République, est une institution dépendant du Premier ministre. C'est elle qui forme, nomme, révoque et salarie les personnels religieux, musulmans sunnites, s'entend, dont les mouftis, spécialistes du droit religieux. Si le projet de loi est adopté en l'état, il sera désormais possible à un couple qui le souhaite de célébrer son union religieuse et civile en même temps sous l'autorité d'un moufti. Le président Recep Tayyip Erdogan, fervent défenseur de cette mesure, ne voit pas le problème. Les mouftis sont des fonctionnaires, il est donc naturel, selon lui, qu'ils aient aussi le droit de célébrer des mariages. Que vous le vouliez ou non, cette loi passera au Parlement, a-t-il lancé à ses détracteurs. Car une partie de l'opposition s'y refuse farouchement. Elle y voit un nouveau coup porté au principe de laïcité. Cela pourrait aussi, craignent les associations féministes, encourager le mariage de filles mineures, car on sait qu'aujourd'hui encore, certains imams sont peu regardants sur l'âge de la mariée au moment de célébrer un mariage religieux. Dernier argument de ses opposants, cette mesure créerait une discrimination entre les Turcs musulmans sunnites et ceux d'autres confessions. Car jusqu'à preuve du contraire, les rabbins ou les prêtres turcs ne sont pas autorisés à célébrer des mariages civils.
Elles sont loin, à plus de 2000 km de Madrid, en plein océan Atlantique. Les îles Canaries sont souvent décrites comme un coin de paradis. Un paradis qui n'est pourtant pas en dehors du monde et qui se retrouve aujourd'hui au cœur des flux migratoires. Cette ancienne route de migration a été réactivée depuis que les passages par la Turquie sont devenus plus difficiles. De nombreux migrants se sont noyés en tentant de rejoindre les îles depuis le Maroc. Mais il y a aussi des histoires qui finissent bien. C'est celle de Kingsley Odiezie que nous allons vous raconter. Ce Nigérien a fui son pays à l'âge de 17 ans. Après des années d'errance, il travaille maintenant dans le club de foot de Las Palmas, qui joue en première division espagnole. Antonin Vabre l'a rencontré.
Las Palmas de Gran Canaria, au large du Maroc, une île paisible où il fait bon bronzer pour les moins actifs ou surfer pour les plus téméraires. Et puis il y a les autres, ceux qui viennent regarder l'océan, ses vagues et toute sa symbolique. Se souvenir aussi que la mer peut être dangereuse pour les moins chanceux. C'est le cas de Kingsley Odiezie.
J'ai un très grand respect pour la mer, parce qu'elle représente tellement plus que ce qu'on pense. On y voit les gens jouer, vivre et mourir. Comme je le dis toujours, la mer donne, mais elle prend aussi.
Parmi ceux qu'elle a pris, il y a un proche de Kingsley.
Mon cousin y a perdu la vie. Il a essayé de me suivre et ça n'a pas marché pour lui.
Et Ramos, son cousin, qui a donc rejoint le destin de milliers de migrants, celui de mourir noyé lors de la traversée de la Méditerranée. Kingsley, originaire de Benin City, orphelin à l'âge de 13 ans, a lui survécu à un long périple avant d'atteindre l'Europe.
Moi, je suis d'abord parti du Nigeria et je suis passé par le Niger, ensuite l'Algérie, puis le Maroc. Et enfin, je suis arrivé à Ceuta.
Régularisé à Ceuta, il rejoint la péninsule ibérique en ferry. Il la quitte 10 ans plus tard pour retrouver son frère à Las Palmas. Depuis la saison dernière, il est devenu Utillero au club qui évolue en Liga, la première division espagnole. Utillero, magasinier. Homme à tout faire. La ville dort encore, mais dans le stade de Gran Canaria, quelques fourmis sont déjà sur le pont. Avec son chef Fernando et Carlos, ils mettent tout en place pour que les joueurs ne se concentrent que sur l'entraînement de foot. Le Nigérian prépare les affaires de chaque membre de l'effectif avec minutie.
Chaque entraîneur, chaque joueur a ses chaussettes, son caleçon, son numéro. Ce numéro, c'est pour identifier à qui ça appartient. En arrivant le matin, on met le tout à la disposition de chaque joueur. Ils le prennent, ils s'habillent, etc. Et au boulot.
Kingsley lavait des voitures à son arrivée sur l'île. Comme cela se produit pour certains joueurs de foot, sa persévérance est repérée. Il rejoint une société de nettoyage avant que Fernando ne le fasse entrer dans une autre dimension.
Je le connaissais déjà, c'est un bon gars et un bon travailleur. Il me manquait un collègue, il a accepté le poste et maintenant il est ici.
Recruté la saison dernière, Kingsley a vite été adopté par les joueurs du club. Sa bonne humeur contagieuse est appréciée, notamment par l'emblématique capitaine du club, David Garcia.
Il est toujours content d'être là. Il fait beaucoup d'heures ici, comme tous les outilleros. Il ne s'arrête jamais. Chaque fois que tu lui demandes quelque chose, il le fait volontiers et toujours dans la bonne humeur.
Le lien entre l'outillero et Las Palmas remonte en fait au 16 mars 2013. Ce jour-là, les jaunes et bleus accueillent la réserve du Real Madrid, la Castilla. Invité au stade par un client dont il lavait la voiture, Kingsley repart avec le maillot de son compatriote, Macaole Crisantus.
J'étais juste en haut ici. Le joueur était sur le banc, quelqu'un lui a dit « Regarde, un mec de chez toi avec le drapeau de ton pays ». Après le match, il a couru vers moi. Pour mon premier jour au stade, j'ai eu le maillot d'un joueur.
King, comme l'appellent les gens sur l'île, n'est pas qu'un bon vivant qui raconte de belles histoires. C'est surtout un gros bosseur capable d'abattre des journées de plus de 12 heures. La sérigraphie, plier les maillots, préparer les chaussures, Kingsley fait tout. Et son gros plus, il connaît les manies de chaque joueur.
Chimo Nabarro, lui, il aime les chaussettes fines, avec une couleur bien précise. C'est différent de celle-ci, on peut le voir. Cette chaussette est plus noire, celle-ci est plus claire. Ce sont des détails propres à chaque joueur.
Conscient de vivre une sorte de conte de fées à l'heure du bilan face à la mer, il ne recommande pourtant l'exil à personne. Pour lui, la clé du succès est ailleurs.
Peu importe où tu te trouves, ce qui importe, c'est ce que tu crois, ce que tu peux faire pour changer ta situation. Changer de pays ne va pas résoudre tes problèmes. Ce qui peut changer ta vie, c'est de croire en toi. Une bonne estime de soi vaut bien mieux qu'un million de dollars. Si tu crois en toi, tu peux être une bonne personne. Et ce que je dis à mes amis, c'est de ne pas tout risquer pour venir ici.
D'ailleurs, King rêve de retourner dans son pays contre vents et marées dans un but bien précis, apporter son expérience au Nigeria. Il travaillait un jour avec l'équipe nigériane qui vient de se qualifier pour le mondial en Russie. Jacob Rees-Mogg looks like a villain, a real nasty villain in a children's book. Oh, but he's so funny and he's so charming. Yes, so are villains. Just take a look.
Et nous prenons la direction de la Grande-Bretagne, toujours empêtrée dans les négociations avec l'Union européenne, dont la lenteur exaspère les Brexiteurs les plus acharnés. Parmi les plus déterminés à accabler la Première ministre Theresa May, l'excentrique, controversé et très aristocratique Jacob Rees-Mogg, nouvelle coqueluche des Tories. Marie Billon.
C'est une caricature de Britannique comme il n'en existe plus. Grand et longiligne, lunettes rondes à la Harry Potter et mèches sur le côté, Jacob Rees-Mogg est un pur produit de l'aristocratie anglaise. Âgé de 48 ans, élu député en 2010, il a connu une ascension fulgurante grâce à son excentricité. Impossible de ne pas le remarquer quand il prend la parole à la Chambre des communes.
I call Mr. Jacob Rees-Mogg for motion.
Thank you, Sir Gerald. May I add my congratulations to you becoming Father of the House in succession to the much regarded and loved Sir Peter Tapsell. Yeah.
Son accent est à faire pâlir la reine.
I've made no pretense to be modern man.
Je n'ai jamais prétendu être un homme moderne, dit-il. Pourtant, il a publié son premier tweet le 15 juillet dernier en latin. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Les temps changent et nous changeons avec eux. Sauf que Jacob Rees-Mogg se fait une fierté de son immuabilité. Il vient d'avoir son sixième enfant avec la même épouse et il l'a appelé Sixtus. Il a aussi avoué n'avoir jamais changé une couche. La nounou le fait brillamment, dit-il. Nounou qui est d'ailleurs sa touche populo. Il a fait campagne avec elle pour montrer aux électeurs qu'il est proche du peuple. Toutes ces excentricités font rire les conservateurs. On parle de Mogmentum pour singer le mouvement Momentum du chef de l'opposition Jeremy Corbyn. Alors, Jacob pour remplacer Theresa? Sûrement pas, dit-il, même s'il semble apprécier l'attention qui lui est portée. On lui prête plutôt l'ambition de devenir speaker, président de la Chambre des communes. Son amour pour la pompe et les traditions serait en effet bien servi. Mais la couche de poussière qu'on imagine s'échapper de son veston à chaque fois qu'il le tapote n'est pas que drôle. Jacob Rees-Mogg est un réfractaire. Il est contre l'avortement en toutes circonstances. Il est contre le mariage gay et le quotidien The Guardian le décrit comme un climato-sceptique et un élitiste. Il est aussi un europhobe convaincu. L'un de ses arguments pro-Brexit préférés n'a cependant pas l'air très british. Une fois sorti de l'UE, Londres pourra lever la taxe sur l'import des grains de café torréfiés. La boisson chaude sera alors moins chère.
On le surnomme l'or de la Baltique, des couleurs tirant sur le miel, caramel ou encore vers des nuances de vert translucide ou de jaune. Depuis plusieurs années déjà, l'ambre est un élément stratégique pour attirer les touristes dans les pays baltes, notamment en Lituanie. Les ateliers de bijoux d'ambre exportent jusqu'en Chine. Mais l'or de la Baltique est-il encore rentable pour le pays? C'est le reportage de Marielle Vitureau.
Dans les locaux de Napoléonas, l'une des plus grandes fabriques d'objets en ambre en Lituanie, les machines-outils tournent à plein régime. Mais ce sont bien les mains de 50 hommes et femmes qui fabriquent les bijoux. Astius Tiasaitis, responsable du marketing.
En ce moment, nous préparons des commandes qui vont partir pour l'Allemagne et vers Hong Kong. Plus de 10 000 colliers d'ambre pour chaque destination, des modèles pour enfants. Et comme l'automatisation n'existe pas, toute la production est réalisée à la main. Et ça prend du temps.
Dès qu'on pénètre dans les locaux, l'ambre envahit littéralement l'espace. Les 30 tonnes de matières premières sont stockées dans de gros sacs dispersés partout dans l'usine. L'ambre ressemble alors à de gros cailloux gris poussiéreux. Dès qu'il commence à être traité, le morceau d'ambre est constamment en mouvement, de la compression de la pierre à son polissage, au modelage, puis au perçage pour en faire des perles. Les pierres sont ensuite triées par forme, par couleur. Les éclats sont, eux, entreposés ailleurs. Ils serviront à faire des tableaux, à l'instar de la grande fresque en ambre dans le couloir qui mène au bureau du directeur. Mais l'ambre travaillé chez Napoléonas vient de partout, sauf de Lituanie, qui ne possède aucun gisement. Astius Yasaitis.
On s'approvisionne le plus souvent soit dans les mines d'ambre à Kaliningrad ou alors en Ukraine. Il y a plusieurs années, nous avons acquis plus de 50 tonnes d'ambre et il nous en reste toujours. Une aubaine, car les prix jouent souvent au yo-yo. Le marché est tout sauf stable et il dépend beaucoup de la Chine.
En 2013, la réorganisation de la mine d'ambre de Kaliningrad avait porté un coup dur au secteur, faisant considérablement monter les prix. Cela a également coïncidé avec le moment où les Chinois, tant des grossistes que des clients aisés, se sont intéressés à cette matière première, notamment pour ses qualités curatives. Virginia Misguirienne possède un petit musée de l'ambre à Vilnius. Elle a dû prendre des mesures fortes pour protéger ses collections.
Il y a très longtemps, la Chine possédait de l'ambre. Quand l'économie chinoise s'est accélérée, les Chinois les plus riches se sont intéressés à ces bijoux. Il y a quelques années, ils venaient acheter tout ce qu'ils pouvaient. Nous avons eu peur et nous avons donc réorganisé notre stock pour mettre les plus belles pièces de côté et ne plus les vendre. À un moment, même des prix très élevés ne les arrêtaient pas.
En 2016, la Lituanie a vendu pour plus de 5 milliards d'euros de bijoux en ambre. Une infime partie l'a été dans le pays même. Le prix du kilo d'ambre varie suivant la taille du morceau, sa pureté et les éventuelles inclusions d'insectes. Le prix standard est fixé au kilo pour des morceaux entre 20 et 50 grammes, environ la taille d'une boîte d'allumettes. Depuis 14 ans, Giedrius Günterus organise Amber Trip, une grande foire de l'ambre.
Aujourd'hui, le kilo coûte 1 900 euros. Il y a deux ans, il atteignait les 4 200 euros. Ce retour à la normale est un bon signe. Les spéculateurs sont mis hors jeu et les sociétés qui travaillent l'ambre depuis des décennies ont enfin des commandes.
L'arrivée de la production ukrainienne est un facteur qui contribue à la baisse du prix. Il y a quelques années, la Lituanie avait aussi pensé à forer dans la lagune de Courlande pour extraire l'ambre. Mais le projet a été abandonné, ce qui réjouit Giedrius Günterus.
Les acteurs du monde de l'ambre ont décidé décidé de ne pas ouvrir de gisements sur les plages de Courland, à Nida. La classe politique nous a aidés en fixant des taxes exorbitantes pour cette activité. Personne n'a répondu à l'appel d'offres. Et d'un côté, tant mieux, nous n'abîmons pas notre coin de nature protégée.
En 2013, le département national du tourisme avait lancé la Voie de l'Ambre. Il s'agissait de faire de cette résine un atout touristique majeur pour la Lituanie qui reçoit chaque année plus d'un million de touristes. Parmi les activités proposées, un menu à l'ambre, mais le contenu des assiettes était plutôt décevant. On ne mangeait pas de l'ambre, c'était seulement les compositions culinaires qui évoquaient l'ambre. Une nouvelle conception plus culturelle de cette Voie de l'Ambre est en train d'être mise sur pied. Rassolet Androlinet en a la charge.
Nous avons l'ambition de devenir d'ici 2 ans un partenaire à part entière de la Voie de l'Ambre, certifié par l'Institut européen des itinéraires culturels. Cette Voie de l'Ambre serait beaucoup moins commerciale. Seuls les sites les plus significatifs seraient sélectionnés pour les touristes.
Mais les massages à l'ambre devraient tout de même faire partie de ce parcours. Certaines techniques ont même été brevetées par des centres de soins. Déjà monnaie d'échange à l'Antiquité, l'ambre devrait le rester. Encore aujourd'hui.
Musique.
On retrouve le choix musical avec vous, Vincent Théval. On découvre un trio au nom trompeur, très inspiré des années 80.
Bonjour Catherine, direction la Biélorussie. Aujourd'hui avec un jeune trio qui s'est formé en 2013 à Minsk et s'est choisi un nom propre à brouiller les pistes, Super Bass. Comme la station de sport d'hiver du Massif Central. Et le groupe biélorusse a poussé loin le jeu des références puisque son premier album paru en 2013 s'intitulait 63610. Oui, il s'agit du code postal de Besse et Saint-Anastèse, la commune où se trouve la station de Super Besse. Le dernier point commun serait à chercher du côté des températures hivernales qui règnent sur la musique du trio, directement inspirée de la cold wave du tout début des années 80, soit des chansons d'où émerge un sentiment d'urgence, de la tristesse et un goût certain pour les aventures nocturnes. D'ailleurs, l'album s'intitule « La nuit » en français dans le texte, mais les paroles sont en russe.
Super Bass, comme son nom ne l'indique pas, est en fait biélorusse. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine à la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr et sur notre page Facebook. Ne zappez pas dans quelques instants le journal.